être comme eux l'explique.
Love Me Tender
2016.
En direct de la cave poésie.
Live, rue du Thor.
Live Me
Tender.
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 Love Me Tender. Love Me Sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
9h05 en direct de la cave poésie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle édition de Love Me Tender en direct de Radio FMR, Radio Campus, Radio Fil de l'eau dans le Gers et dans le monde entier sur le site de la cave poésie, cave-poésie.com ou alors sur l'onde miroir, l'ondemiroir.fr. 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour. Une grosse déclaration d'amour finalement à Lucie B qui nous écoute peut-être depuis son lit, depuis chez elle. Cette artiste magnifique qui a initié cette opération il y a quelques années. Aujourd'hui elle n'est pas avec nous mais on pense fort à elle et peut-être nous fera-t-elle le plaisir d'apparaître dans le studio de la cave poésie. La cave poésie donc transformée en studio radio, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a des canapés, il y a des tables, il y a une trentaine de croissants de viennoiseries qui ont été amenés ce matin, du thé, du café pour commencer cette Saint-Valentin tout en douceur. 24 heures non-stop avec une cinquantaine de lecteurs, de lectrices qui vont se relayer avec des musiciens, des musiciennes pour vous donner à entendre l'amour sous toutes ses formes. On commence de suite avec une autrice du XVIIIe siècle, enfin à cheval sur le XVIIIe et le XIXe, la princesse Constance de Salme, qui a écrit un roman épistolaire, 24 heures d'une femme sensible. Constance de Salme est une femme de lettres française qui marqua son temps par sa prose et son modernisme. Ça a été la première femme à entrer au lycée. Et elle était, entre autres, la copine d'Alexandre Dumas, de Stendhal ou du marquis de Lafayette. C'est Gaëlle Levallois, une habituée de Love Me Tender, qui suit cette aventure depuis le début, qui va nous plonger dans ces 24 heures d'une femme sensible. Bienvenue sur Love Me Tender, 24 heures de Love Radio.
Lettre numéro 1. Bonjour mon ami, me voilà. La nuit a été affreuse. Ton image, celle de cette femme, ont toujours été là devant mes yeux. Je te voyais, je t'entendais, je te parlais, cher et cruel ami. Et 20 fois je me suis réveillée le front couvert de sueur et dans une anxiété que je voudrais pouvoir te peindre. L'essayerais-je ? Je ne sais. Les femmes ont dans l'âme une foule de sensations que l'amant le plus tendre peut à peine comprendre. Elles lui semblent une sorte de délire. Mais quand cela serait, le délire, l'erreur même de l'amour n'ont-il pas quelque chose de sacré ? Dis, n'étais-je pas à plaindre hier d'être loin de toi pendant ce triste concert, de contraindre jusqu'à mes regards sans que tu ajoutasses encore par ton étrange conduite à cette douleur que tu connais si bien. Je ne veux point savoir ce qu'est devenu, et c'est que ce qu'est venu, t'apprendre le baron de G, quoique tu parusses hors de toi en l'écoutant. Mais dis, que signifiait ton empressement à aller saluer cette belle et coquette madame de B dès qu'elle est entrée ? L'espèce de cour que tu lui faisais, l'air de mystère avec lequel tu parlais, toi qui la connais à peine. Dis, comment après 3 heures si péniblement écoulées, comment ta bouche a-t-elle pu prononcer cet adieu presque indifférent que tu m'as adressé furtivement en passant ? Qu'il m'a fait de mal, grand Dieu, n'as-tu donc jamais éprouvé que le dernier mot que l'on se dit en se quittant laisse dans l'âme une impression qui dure jusqu'à ce que l'on se revoie ? Et comment me quittais-tu ? En menant cette femme, la reconduisant chez elle parce que sa voiture n'était pas arrivée ? Quel misérable motif pour déchirer si cruellement mon cœur ! Les hommes sont bizarres. Ils ne savent rien refuser à une femme qui leur est étrangère, et celle qui mérite le plus grand leur égard semble toujours celle qui en obtient le moins. Mon saisissement, mes regards suppliants, rien n'a pu t'arrêter, rien. Tu es parti, je suis restée là, debout, immobile. Je t'ai suivi des yeux donnant la main à cette femme, je l'ai vue monter en voiture. Puis toi près d'elle. Le bruit de la portière, lorsqu'on l'a fermée, m'a presque renversée. Celui des roues, lorsque l'on est parti, m'a fait pousser un long gémissement. Il me semblait qu'elles emportaient ma vie, qu'elles broyaient mon cœur. Mes forces diminuaient à mesure que le bruit s'affaiblissait, et quand le dernier murmure s'est perdu dans l'air, j'ai cru ne plus exister. Et je suis tombée mourante sur un siège. Mais qu'a donc cette madame de B pour me mettre dans cette horrible situation ? S'il faut croire ce que l'on en dit, son âme tout entière t'offrirait-elle une seule étincelle du feu qui dévore la mienne ? Oh non ! Mais elle est belle, elle est coquette, et seule dans une voiture, les vêtements qui se touchent, les mains qui se rencontrent, on respire le même air, on est homme, on est femme. Ah ! Lettre 3. Que se passe-t-il donc en moi ? Aucune circonstance nouvelle n'a pu augmenter mon trouble, et cependant il s'accroît à chaque instant. Je crois voir 1000 choses qui m'étaient échappées d'abord. Il semble qu'il y ait des douleurs que l'on éprouve sans le savoir, et dont on ne se rend bien compte que quand elles remplissent tellement le cœur qu'il devient impossible de les supporter. Ces idées sont, il est vrai, vagues et confuses. Elles passent devant mes yeux et s'évanouissent comme de 20 fantômes. Mais il en est une qui reste toujours là. Une dont la vérité m'épouvante. Une qui repose sur un fait et que je ne puis me nier à moi-même. Vous avez remarqué cette femme, mon ami. Vous l'avez remarqué. Et qui ne sait que toutes les illusions de l'amour se touchent ? que la plus douce, la plus nécessaire, la plus sacrée est celle qui nous fait croire qu'il n'existe personne pour nous, hors du cercle enchanté dont la passion nous environne. Vous avez remarqué cette femme ? Et moi ? Je ne voyais que vous. Lettre 4. Non, tu ne me trahiras pas. Tu ne trahiras pas ces serments tant de fois répétés. Tu ne les profaneras point par des sensations étrangères. Tu ne le pourrais pas. Il y a dans l'amour autre chose que l'amour, une union plus intime encore, des rapports qu'il n'appartient pas aux âmes communes, de comprendre ni de sentir, un entraînement d'un être vers l'autre qui ne tient à rien de ce que la pensée peut définir. C'est par l'accord involontaire de ces sentiments, de ces délices inconnus, que nous sommes unis, chère âme de ma vie. Que peut une madame de B contre des liens si sacrés ? Ce qu'elle peut ? Ah ! Qu'osais-je dire ? L'amant le plus fidèle, le plus intime même, a-t-il jamais su résister aux provocations de la coquetterie ? Éternelle supériorité de mon sexe sur le tien. Au nom de tout ce qui t'est cher au monde, douce moitié de moi-même, ne m'expose plus à ces cruelles tortures. Veille avec plus de soin sur notre bonheur. Hélas, qu'est-ce que cette vie qui nous échappe à chaque instant et que nous remplissons si légèrement d'amertume ? Un supplice si l'on souffre, un délire si l'on est heureux, et toujours de la vie que l'on dépense, que l'on prodigue, qui ne reviendra plus, qui emporte tout, tout, même l'amour. Nous aussi, mon bien-aimé, il viendra un temps, qui le croirait, il viendra un temps où nos âmes cesseront de s'entendre, de se confondre, où notre froide cendre sera le seul reste de ce feu qui nous dévore. Ah, enivrons-nous au moins pendant ce court passage de tout ce que l'amour a de plus pur et de plus ardent. Ne souillons pas ces délices par des erreurs et des craintes vulgaires. Et dans tous les instants de notre existence où nos cœurs s'élanceront l'un vers l'autre, que l'amour seul les embrase et que l'ombre même du soupçon n'ose s'approcher de nous. Veuve, libre, prête à être unie à toi par les liens les plus sacrés, que ces contraintes me sont cruelles, mais tu me les imposes, j'y consens. Si tu veux que l'on ne nous devine pas, ménage-moi davantage. Ne me fais surtout plus trouver avec cette femme. Il est possible, je le conçois, de cacher l'excès de son bonheur. Cette félicité qui remplit l'âme peut en quelque sorte réagir sur elle-même et s'enivrer de ses propres sensations. Mais cette douleur qui frappe, qui accable, ces émotions subites et profondes, quel est l'être assez malheureux pour avoir sur lui le triste pouvoir de les dérober à tous les yeux ? Lettre 6. La face de mes idées est changée subitement, je ne sais pourquoi. Je ne souffre pas moins, je raisonne davantage. Mes sensations sont les mêmes, mes pensées sont différentes. Je croyais voir à l'instant un devoir impérieux dans la nécessité de cacher notre amour. Et maintenant, ce mystère ne me semble plus qu'un sacrifice inutile et dangereux. Je rougis à mes propres yeux de ces variations, sans pouvoir m'en expliquer la cause. Peut-être arrive-t-il un moment où l'âme, épuisée par des agitations trop violentes, nous ôte la force de notre jugement. Peut-être, au contraire, cesse-t-elle alors de le troubler. Quoi qu'il en soit, écoutez-moi, mon ami, écoutez-moi avec attention. Je vous tourmente, je le sens, je suis jalouse, ridiculement jalouse. Il ne se passe presque aucun jour sans qu'un nouvel objet ne devienne pour moi la source d'une nouvelle douleur. Mademoiselle de L, mademoiselle de C, ont tour à tour porté le désespoir dans mon sein. Aujourd'hui, c'est madame de B. Ai-je tort? Ai-je raison? Je ne le sais pas. Je ne veux pas le savoir. Vous vous justifierez sans doute cette fois comme les autres. C'est tout ce qu'il me faut. Je vous croirai, quoi que vous me disiez. Que le ciel me préserve de douter des paroles de l'homme à qui j'ai donné mon cœur. Mais si cette suite de soupçons allait altérer votre amour, j'en mourrais. Je mourrais du chagrin seul de m'être attiré à un si terrible malheur. Cependant, je ne puis me vaincre, je ne le puis, en vérité. Je ne vous laisse voir même qu'une bien faible partie de mes tourments. Il y a dans ces émotions violentes, je ne sais quelle sorte de pudeur qui fait craindre de les montrer tout au grand jour. Connaissez enfin tout l'excès de ma faiblesse. Je vous aime, mon ami, plus que l'on n'a jamais aimé. Mais il ne se passe pas une minute de ma vie sans qu'une secrète anxiété ne se mêle à l'enchantement de ma passion. Sommes-nous ensemble dans le monde ? Le moindre mot que la politesse vous fait dire à une autre femme élève déjà un sombre orage dans mon sein. Si ce n'est pas à moi que vous donnez la main pour passer d'une chambre à l'autre, mes regards inquiets vous suivent dans la foule. Le plus petit hasard qui vous dérobe à ma vue me fait frissonner. Êtes-vous quelque temps sans reparaître? Un nuage se répand sur mes yeux, je n'entends plus, je ne me soutiens à peine. Et je ne reviens à moi que quand le doux son de votre voix a de nouveau frappé mon oreille. Sachez tout, dans ce cabinet solitaire même, dans ce coin reculé de mon appartement, asile sacré de l'amour, où nous avons trouvé le moyen de nous voir à l'insu de l'univers, ces terribles idées me poursuivent encore. Quoique me défiant de moi-même, je m'efforce de ne pas vous y devancer. Chaque pas que je fais pour m'en approcher accroît en moi la crainte de ne pas vous y trouver. Quand mes yeux commencent à distinguer la porte, mon agitation est devenue si forte que je ne puis à peine respirer. Si je ne vous aperçois pas en entrant, tout mon sang se glace. Et quelle est la cause de tant de tourments? L'excès de ma tendresse, sans doute, mais bien plus encore, ce voile de contrainte et d'incertitude qui couvre notre félicité. Nous devons être unis par des liens indissolubles. Mais nous ne le sommes pas. Mille événements peuvent nous séparer. Et qui ne sait que, pour une âme tendre, la simple possibilité d'un si grand malheur suffit pour empoisonner la certitude des plus douces jouissances. Soyons donc unis, puisque nous devons l'être. Soyez à moi aux yeux de l'univers. Habitons les mêmes lieux, portons le même nom. Que le matin, que le soir nous revoient ensemble. Et, tout entière à mon bonheur, je suis bien sûre de vous environner d'un charme de tendresse qui ne permettra à aucune impression étrangère d'arriver jusqu'à vous. Et qui me garantira à jamais des craintes de mon cœur, ou plutôt à des égarements de mon imagination. Oui, connais-moi tout entière, lis ces caractères tracés dans le désordre de mes esprits, mais dans l'ivresse de mon amour, lis ces lettres, chère moitié de moi-même, lis-les toutes, mais hâte-toi de me rassurer, crains de perdre une seule minute d'un temps si nécessaire à mon bonheur. Dis-moi seulement que tu m'aimes, mais dis-le-moi tout de suite. Songe qu'une âme violemment émue est accessible à toutes sortes de craintes. Que peut-être dans un instant je vais frémir à la seule idée de t'avoir montré l'excès de ma faiblesse, et que même heureuse et tranquille, quand je n'ai pas reçu les tendres assurances que tu me donnes chaque matin de ton amour, il me semble que ma journée n'est pas commencée, et que je ne vis pas encore tout à fait. Lettre 7. Te rappelles-tu cet instant de délice où pour la première fois nos cœurs se sont entendus? Les plus légères circonstances en sont encore présentes à ma pensée. Nous nous connaissions à peine, mais déjà tes regards, tout l'ensemble de ta personne m'avait fait ressentir mon bonheur. Il semble qu'il y ait entre deux êtres qui doivent s'aimer une sorte d'appel involontaire et réciproque de toutes les facultés auxquelles il est impossible de se tromper. Oh, quel moment! Ah, mon ami! Une légère rougeur colorait tes joues. Tes beaux cheveux blonds en désordre semblaient environner ton front d'un rayon lumineux. Mon trouble était si grand que je ne sais encore si ce que tu me dis ni ce que je puis te répondre. Mais je revins à moi par l'excès même de mon agitation en te voyant quitter le siège que tu avais pris d'abord et te placer si près de moi que mes vêtements touchaient presque les tiens. La nature a mis en nous des sentiments inexplicables. Cet instant où je compris que j'étais aimée fut peut-être le plus beau de ma vie. Et pourtant, mon premier mouvement fut de fuir. Un avenir entier de transport se déroula à l'instant devant moi. Je me sentais éperdue, égarée. J'entendais les battements de mon cœur. Mais la nature ne peut suffire à des émotions si vives. Mes idées se troublèrent, je retombais sans force et j'allais succomber sous le poids de tant de délices si les douces larmes du bonheur n'eussent enfin coulé à grands flots de mes yeux. Lettre 11. Avez-vous jamais éprouvé, mon ami, ce que c'est de chercher à percevoir quelqu'un que l'on attend avec impatience ? Une personne paraît, ce n'est pas celle-là. Une autre, pas encore. Une troisième, de même. Cependant, 20 autres se succèdent. La moindre ressemblance dans la taille, la marche, dans la forme, la couleur des vêtements fait tressaillir et, ballottée sans cesse entre 1000 sentiments contraires, la tête se trouble, la machine s'épuise et l'on finit par se trouver dans un état si violent qu'il approche du désespoir. Voilà où j'en suis. Pourtant, je dois le dire, je m'efforce de me cacher à moi-même l'excès de mon inquiétude. Plus elle me paraît avoir une cause réelle, et plus je cherche à me la dissimuler. Étrange force, étrange faiblesse du cœur humain. Lorsque, dans l'emportement de la passion, nous nous forgeons 1000 craintes chimériques, nous nous plaisons en quelque sorte à nous abandonner à ce délire. Il semble qu'une voix indiscrète nous dise qu'il peut n'être qu'un jeu de notre imagination, mais quand la certitude arrive, quand nous pouvons dire « cela est », nous rentrons en nous-mêmes. Nous devenons plus réservés et nous cherchons à nous dissimuler même ce qui frappe nos yeux. Il y a quelques instants, rien n'arrêtait mes conjections et mes conjectures sur le retard de ce billet tant désiré. Et maintenant, je trouve 1000 raisons pour l'excuser. Je me dis que, peut-être, vous n'êtes pas encore réveillé, que quelques affaires imprévues vous empêchent de me répondre, comme si je n'étais pas votre première affaire. J'en viens même à penser que vous êtes malade. Malade. Cette pensée est horrible, mais je la préfère encore à celle qui me rappelle cette femme. Cette femme dont l'image me poursuit sans cesse. La jalousie rend-elle donc barbare ? Lettre 13. Mes pressentiments ne me trompaient donc pas, point de lettre. Mais cela ne serait rien, encore. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes, dit-on, à la campagne. Vous êtes parti à 1h du matin. Une voiture est venue vous chercher. Une femme, que l'on a pu distinguer, vous a fait demander une femme. Elle est restée dans la voiture, elle paraissait vous attendre avec impatience. Personne ne peut dire où vous êtes. Charles a en vain cherché à obtenir quelques lumières. Il savait à peine à qui s'adresser. L'homme de confiance qui vous remet secrètement mes lettres est parti avec vous. Le bon vieillard verse des larmes de l'affreuse douleur qu'il vient de me faire. Il pleure. Il a tort. Je ne pleure point, moi. Lettre 14. Il serait horrible de vous accuser de ce que j'entrevois, si vous en êtes innocent. Je recueille mes forces, je retiens mes esprits prêts à s'égarer. Je cherche à voir ce que je dois croire, faire, penser. Je suis de sang-froid. J'ai le sang-froid du désespoir. Lettre 20. Vous êtes rentré tard, vous avez donné des ordres pour votre départ et vous vous êtes mis à écrire. À 1h, on vous a apporté une lettre. Quelques minutes après, cette femme est venue vous chercher. Vous êtes parti avec elle. Voilà ce que je viens d'apprendre. C'était donc là le sujet de cette longue conversation d'hier au soir. Aveugle que j'étais. Lettre 28. Le cœur humain est inexplicable. Me voilà presque tranquille. Après une crise si violente qu'elle eût dû être la dernière de ma vie, la nature a repris ses droits. Un profond sommeil s'est emparé de moi. J'ai pu être une heure entière sans penser à vous. En me réveillant même, je ne savais plus ce qui m'était arrivé. Je sentais seulement que c'était quelque grand malheur. Mes souvenirs vagues et confus semblaient se perdre dans le trouble de mes idées. Je les ai enfin retrouvés, mais la disposition du corps influe sur celle de l'âme. On n'éprouve pas deux fois de même la même douleur. Ce n'est plus un désespoir que je sens en moi, c'est une stupéfaction. Je ne conçois pas que vous ne soyez pas là, que je ne vous attende pas, que vous n'entriez pas dans cette chambre où tout ce qui frappe les yeux me paraît empreint du feu sacré de notre amour. Le souvenir de cette femme, de cette lettre, de ces indignes affronts que j'ai essuyés chez vous, ne me tire pas même de cet état. À chaque instant, il couvre mon front d'une rougeur subite, mais le moment d'après, je n'y attache aucune importance. Je viens à cette table et je vous écris, voilà tout. Voilà la seule pensée qui me reste. Je ne sais où vous envoyez ces lettres, je ne sais quand vous les recevrez, mais je vous écris, cela me suffit. Ces caractères que je trace et que vous lirez me semblent un lien de votre âme à la mienne, et cette idée absorbe toutes les autres. Enfin, vous le voyez, me voilà, je vis encore. Il me semble que je ne souffre plus. Ah ! Sans doute est-il un terme au-delà duquel le désespoir même ne peut plus rien sur nous. Pourtant, je ne vous écrirai plus. Non, je ne vous écrirai plus. Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'aurais-je encore à vous dire ? Lettre 29. Si je ne vous écrivais pas, que ferais-je de mon temps, de moi-même ? L'amour tient tant de place dans la vie. C'est quand il n'est plus là que l'on sent le poids de ces longues minutes qui doivent s'écouler sans lui. C'est quand nous l'avons perdu que nous voyons qu'il était le motif de toutes nos actions, le char de toutes nos pensées, le foyer de tous nos sentiments. C'est alors seulement que nous comprenons bien ces véritables délices. Et que, privés de la plus chère moitié de nous-mêmes, nous errons dans le vide de notre âme et ne jetons plus autour de nous que des regards tristes et des gens désenchantés. Voilà ce que j'éprouve. Vous ne m'aimez plus. Tout est changé pour moi. Je ne suis plus même ce que j'étais avant de vous connaître. Je n'ai plus cette force, ce courage qui me distinguait, disait-on, des autres femmes. J'ai perdu jusqu'à ce noble orgueil qui tant de fois a fait bouillonner mon sang à la seule pensée d'un affront souvent imaginaire. Vous m'abandonnez et je pleure. Vous m'outragez et je veux mourir. Déchu des grandeurs de l'amour, je suis aussi déchu de moi-même. Je rentre dans la route commune de la vie. Je ne suis plus qu'une femme ordinaire. Thank you. Lettre 31. Adieu, ingrat. Adieu, parjure. Adieu, lâche et indigne amant. Tu t'es fait un jeu cruel de tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'univers, de la foi des promesses, de l'honneur d'une femme, des transports de l'amour, des épanchements d'une âme pure qui s'est lancée vers moi. Mais je ne crois pas que ce crime du cœur restera impuni. La nature ne plie pas ses lois à la folle inconstance des hommes. Il y a entre deux êtres qui se sont aimés des liens sacrés et involontaires que l'on ne rompt pas si facilement et qui, pour le supplice de l'amant infidèle, enchaînent encore son cœur longtemps après qu'il les croit brisés. Lettre 32. Reviens. Reviens à moi, mon amour, mon ange, mon seul bien. Reviens, je t'en conjure. Cette femme t'a séduit, je le vois, tu n'auras pu résister. Les hommes ont, dit-on, cet horrible privilège. Eh bien, le ciel sait que cette pensée me fait éprouver de douleur, mais il n'en est pas pour moi de plus affreuse que celle de te perdre. Reviens. Reviens, je t'en conjure. Mes bras, mon cœur te sont ouverts. Mes larmes, mes feux te purifieront de cette indigne profanation. Reviens. Ne crains pas mes reproches, je ne t'en ferai pas. J'oublierai tout. Ma bouche ne s'ouvrira que pour te parler de mon bonheur. Que serait un pardon s'il était acheté si cher? Et si tu crains la honte d'un repentir, fais seulement que je puisse le soupçonner. Et je t'épargnerai jusqu'à la moindre démarche. En tel lieu que tu sois, à la campagne, chez toi, chez cette femme, je volerai t'arracher de ses bras. Ce sera tout risqué, je le sens. Ce sera m'exposer encore au blâme, au vain discours du monde. Mais qu'est-ce que cela auprès de ce que je souffre? Ce monde si redouté nous a-t-il jamais payé des sacrifices que nous lui faisons? Oui. Dis un mot et je pars. Je te chercherai, je te trouverai. Je te trouverai près de cette femme. Je n'y résisterai pas, je le sens, je tomberai là, devant toi, mourante. Mais tu ne me repousseras pas. Non, tu ne me repousseras pas. Et je serai sauvée. Dis-moi, dis-moi donc que tu ne me repousseras pas, mon ange, mon âme, ma vie. Comment résisterais-tu à ton amie expirante? Comment sentirais-tu tes mains pressées dans ces mains brûlantes sans en être émue jusqu'au fond de l'âme? Comment nos regards pourraient-ils se rencontrer sans qu'une attraction involontaire nous fît voler dans les bras l'un de l'autre? N'est-il pas entre les amants des sympathies mystérieuses que rien ne saurait expliquer? Et quand cela ne serait pas, qui me dit que l'idée du mal que tu me fais n'a pas touché ton cœur? Que dans ce moment même, tu ne reviens pas à moi? Car tu n'es pas insensible, tu ne l'es pas. Je ne t'aurais pas aimé si le feu de la sensibilité, ce feu divin que l'on ne peut confondre avec un autre, n'eût éclaté dans chacun de tes traits. Ah, que ces idées sont douces et consolantes! Comme elles me font de bien! Comme j'en avais besoin! Oui. M'y voilà résolu. Je veux tout risquer. Je veux t'envoyer cette lettre. Je veux... Mais j'entends quelqu'un. Si c'était toi... Ah, mon Dieu! Il faudrait donc en mourir de bonheur? Non, c'est... Me dit-on, Alfred. Alfred, toujours Alfred. Que me veut-il? Que peut-il me vouloir? Je ne veux pas le voir. Je ne veux voir personne.
Thank you.
Lettre 40. Pourquoi ces larmes, ces cris, ce désespoir? De quoi puis-je me plaindre? Ma vie, mon sang, ne bouillonne-t-il pas encore dans mes veines? Tout l'avenir ne s'est-il pas rouvert devant moi? J'ai été trompée. Eh bien, n'est-il pas beau d'être trompée? N'est-ce pas la gloire des âmes pures? Que me parle-t-on de déshonneur? S'il fallait paraître devant le tribunal de l'honneur même, je dirais, je l'aimais. Ce mot suffirait pour ma défense. Que dirais-tu pour la tienne? Quel cœur battra contre le mien? Quelle main pressera la mienne? De quel regard verrai-je s'échapper ces traits de flamme qui, semblables à des émanations de la divinité, portaient dans mon âme mille transports de joie et d'amour? Lettre 43. Vous croyez que je m'abandonne au désespoir? Eh bien, vous vous trompez. Je vais, je viens, je ris, je chante. Me voilà parée, brillante, de parure. Tout à coup, je me suis dit, c'est à cette fête même qu'il faut aller. C'est là qu'il faut paraître. Conduite par celui qui a pris pitié de moi dans mon malheur. Et à l'instant, tout ce que le luxe peut avoir inventé d'éclat et de magnificence a été employé pour m'embellir. Pour la première fois de ma vie, peut-être, j'ai cherché à plaire par ces vains attraits que la nature m'a donnés. Mais je l'ai cherché avec passion, avec fureur. Je me suis regardée et j'ai été éblouie. Je veux que, quand je paraîtrai à cette fête, un murmure d'admiration s'élève de toutes parts et retentisse jusque dans ton cœur. Je m'avancerai en triomphe. Je te verrai près de cette femme et je passerai après t'avoir jeté un regard de dédain et de mépris. Me voilà tranquille, tout à fait tranquille. J'ai rassemblé mes lettres. Elles sont déjà chez vous. Vous les y trouverez à votre retour, vous les lirez. Ce sera ma seule vengeance. Mais elle sera terrible.
cher ami. Hâte-toi de lire la lettre que je t'envoie. Tu aurais dû la recevoir hier. Dans le trouble de mon départ, Henri a oublié de la faire porter chez toi. Il la trouve et me la rapporte tout épouvantée. Qu'auras-tu fait? Qu'auras-tu pensé? Ne pas même savoir où j'étais. Ah, pauvre ami, c'en était trop pour toi. Mais que veut me dire mon oncle? Il me raille sur mon bonheur. Il me prie de faire sa paix avec toi. Qu'est-ce que j'entrevois? Rassure-moi, je t'en conjure. Ne perds pas une minute. Je t'écris sur mes genoux. Dans un coin de la salle du bal que je ne puis quitter, je m'en désole. Un mot, un seul mot. Je t'aime.